Ernest n'avait pas bougé d'un pouce. Il avait écouté l'histoire dans un silence que je pourrais, d'une façon ironique, qualifier de religieuse. Il se pencha vers la bouteille qui se trouvait devant lui et en versa une bonne rasée à son narrateur. « Alors, monsieur le curé, c'était quoi ce trésor ? Des pièces d'or ? Des bijoux ? De l'argenterie ? Des objets de valeur datant de Léonette de Joinville ?»«
Si seulement je le savais, » répondit-il.
« Mais rien, rien du tout, pas la moindre note relatant la nature du trésor. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'en prit pas la totalité et que certainement un pactole fabuleux dort encore quelque part sous nos pieds. »«
Mais savez-vous au moins comment il a négocié le trésor ? De l'argent ? Il a bien dû en avoir en échange de sa trouvaille. »«
Eh bien oui. Voici la suite de l'histoire, » reprit Père Trambert. Le curé Chambol, assis à sa table, la tête coincée entre ses deux paumes, semblait plongé dans une profonde réflexion. Jeannot restait en face de lui, le regardant avec ses grands yeux d'enfant. Il avait lu et compris le parchemin et maintenant comprenait l'étendue de l'immense fortune qu'ils avaient découverte. Tout en observant un silence qu'il pensait de rigueur, il épluchait avec soin les pommes de terre qui étaient devant lui, en s'appliquant de façon à éviter le moindre gâchis. Chambol, rompant soudain le silence, chuchota.
« J'ai une connaissance sur Genève qui, je pense, peut nous aider. »«
À quoi ?» demanda Jeannot.
« Eh bien, à transformer notre trésor en pièces de monnaie. Il ne sert à rien si on ne peut pas le négocier, » expliqua-t-il.
« C'est qui cette personne ?»
Chambol regarda Jeannot droit dans les yeux et se mit à lui raconter ce voyage qui l'emmena de sa Bretagne natale jusque dans le pays de Gex. Il avait été nommé dans cette lointaine paroisse à sa propre demande, une raison personnelle qui lui intimait de s'éloigner à tout prix de sa région. Le voyage en calèche s'énonçait particulièrement long et exténuant. Une dizaine de personnes partageaient l'inconfort de ce transport qui leur permettrait de traverser la France. Assis en face de lui se trouvait un monsieur à l'allure impeccable, engoncé dans un costume qui semblait peu confortable. Pendant le premier jour de voyage, ils n'échangèrent pas un seul mot, s'envoyant simplement des regards furtifs. Pour Chambol, ce n'était pas vraiment un problème. Le nez plongé dans son bréviaire, il se délectait de la parole divine et ceci lui permettait d'oublier le chaos du chemin caillouteux, la poussière envahissante et la chaleur suffocante de cette splendide journée d'été. Ils n'eurent droit qu'à deux arrêts dans des auberges relais, le premier pour se restaurer et le second pour engager leur nuitée. Le deuxième jour, l'auberge qui était censée le recevoir pour la collation du midi avait brûlé, et ils s'étaient retrouvés devant l'obligation d'accomplir le périple jusqu'à leur prochain arrêt le ventre vide. Chambol, toujours prévoyant et dont les maigres ressources ne lui permettaient pas vraiment de faire ripaille dans les auberges, avait avec lui emmené de quoi boire et se nourrir pendant la totalité du voyage. Et c'est donc, à la façon boule de suif, qu'il partagea son repas avec ses compagnons de périple. Ce geste, particulièrement généreux, lui attira la sympathie de tous et c'est ainsi qu'il fit connaissance avec M. Fleming, un admirable chirurgien qui officiait dans un hôpital très réputé de Genève. Ils se lièrent d'amitié pendant les longs jours que dura leur périple. Ce médecin revenait d'un voyage en Angleterre qui lui avait permis de retrouver toute sa famille et d'échanger les dernières techniques d'opération particulièrement pointues avec ses confrères anglo-saxons. À la fin du voyage, et au moment de se quitter, il lui donna son adresse, puis avec une forte intonation anglophone, l'invita à venir lui faire souvent de petites visites. Il lui assura qu'il pouvait compter sur son aide si un quelconque problème devait surgir dans son existence et que lui, ou l'un de ses très nombreux amis qui comptait parmi les personnalités très influentes de Genève, pourrait facilement l'aider. Il ajouta que son entourage était composé de banquiers, hommes politiques, puissants industriels qui étaient presque tous redevables de ses bons offices. La fribousse de Jeannot s'égaya.
« Eh bien, voilà l'occasion d'aller voir votre ami. »
Chambol semblait flotter dans les rues de la vieille ville de Genève. Sa longue chasuble noire le recouvrant en totalité cachait le rythme de ses pas et donnait cette impression de glissement sur le pavement de la chaussée.
La montée de la rue était particulièrement difficile et mettait à rude épreuve le déplacement de sa monumentale carcasse. Monsieur Fleming possédait un appartement sur la place de la cathédrale et c'était ici qu'il lui avait donné rendez-vous. La raison principale de son invitation faisait suite à la réception de la missive qu'il avait envoyée et qu'il avait trouvée bien étrange et intrigante. Il trouva le numéro 15 de la place, vérifia que le nom de sa célèbre connaissance y était bien indiqué, puis il monta lentement les trois étages qui le séparaient de la magnifique porte en chêne qui barrait l'entrée du logement de son illustre ami. Il saisit l'enclume en fer forgé et frappa plusieurs fois sur le bâton de bois qui résonna à la cadence de sa main. Un pas se rapprocha rapidement et la porte s'ouvrit devant un majordome averti qui pria le curé d'entrer avec un « Monsieur vous attend !» des plus empruntés. D'un geste de la main et d'une déférente courbette, il l'invita à le suivre et conclut par un « Je vous laisse patienter, je vais avertir monsieur de votre arrivée. » Chambol pénétra dans un magnifique salon aux fenêtres bordées de rideaux aux couleurs pourpres. Un immense chandelier marquait le centre de la pièce. Une bibliothèque riche de centaines de livres reliés de cuir garnissait le pan complet de l'un de ses murs. Le curé profita de l'attente pour s'en approcher et avec le contentement de l'homme cultivé qu'il était, il susurra quelques-uns des titres scientifiques qui y étaient inscrits.
« Cher curé Chambol !» s'exclama une voix derrière lui. « Quel plaisir de vous voir !»
Il se retourna pour faire face à M. Fleming. C'était un grand homme maigre, au visage émacié, au regard vif, à la démarche rigide et franche. Le bras tendu en direction de son invité, il lui serra vigoureusement la main et sembla réellement heureux de le revoir. Les deux hommes échangèrent quelques banalités d'usage, puis M. Fleming le fit asseoir à ses côtés et sans détour engagea la conversation sur le sujet qui amenait son hôte.
« Dans votre lettre, vous me parlez d'une découverte fabuleuse. »
« Oui, » répondit tout simplement le curé, puis il sortit de l'une de ses poches une petite boîte qu'il tendit à Fleming. Puis il continua. « Ce n'est qu'un échantillon de ma trouvaille. J'aimerais que vous, ou l'une de vos relations, en fasse une évaluation. »
Fleming regarda l'échantillon avec circonspection, faisant naviguer avec précaution la petite boîte devant ses yeux.
« Mon cher Chambol, j'aimerais être éclairci sur ceci. »
« Ce que je vous ai brièvement raconté dans ma lettre est entièrement véridique. Je peux vous l'assurer par ma propre expérience. »
Puis le curé s'engagea dans des explications longues et très détaillées, mais ne jugea pas nécessaire de divulguer les informations concernant l'emplacement de sa découverte. Fleming écouta avec application tous les propos que le curé lui énonçait, fronçant les sourcils quand certains lui semblaient d'une vérité improbable. Le temps passa lentement, allongé, il est vrai, par de nombreuses et judicieuses questions que Fleming ne put s'empêcher de poser. Puis, l'objet que Chambol avait apporté fut posé sur la table et les deux hommes le regardèrent fixement en gardant le silence. Fleming n'avait pas osé contrarier Chambol, mais pour l'instant, il doutait un peu de la valeur de cette trouvaille. Une petite visite à l'un de ses amis de confiance pourrait certainement le conforter dans son opinion.
« Je dois vous quitter, » s'excusa-t-il soudainement. « J'ai messe ce soir, » précisa-t-il.
Les deux hommes se serrèrent cordialement la main, et Fleming l'accompagna jusqu'à la porte, lui promettant de donner suite à sa requête. Pensif, il ne réintégra pas immédiatement ses appartements, mais écouta les pas de son visiteur qui cheminait dans la descente d'escalier. Seul, le claquement sonore de la porte principale de son immeuble sembla le dégager de sa rêverie. Rentrant précipitamment dans son salon, il saisit l'objet de sa préoccupation et ordonna à son majordome d'aller chercher sa calèche.
« Je dois me rendre d'urgence à l'hôpital, » précisa-t-il.